Merci, Monsieur le Président. La nature fouillée des discussions d'hier nous a beaucoup plu. Nous soutenons une nouvelle fois l'approche de la présidence visant à présenter des éléments de texte pour donner le cadre à notre discussion. Même notre discussion brève d'hier a déjà mis en exergue les nombreux domaines de convergence entre nos délégations sur tous ces sujets. À présent, nous aimerions aborder cette question. Quelles sont les fonctions de Salak qui seraient autonomes sur la base de cette description ou caractérisation? Comme d'autres délégations qui nous ont précédés, selon nous, cette question est superflue. Nous avons une définition centrée sur les fonctions. Donc les fonctions qui seraient autonomes sur la base de ces définitions sont les fonctions qui sont énumérées. Nous reprenons également entre compte ce qui était dit par la délégation des États-Unis, c'est-à-dire que l'autonomie est une capacité. Le chapeau, tel que rédigé, laisse entendre que les fonctions autonomes sont gravées dans le marbre. Or, nous savons que l'autonomie est une capacité qui peut être utilisée pour différentes fonctions de manière diverse. Donc, la formulation alternative pour le chapeau suggérée par les États-Unis nous convient davantage. En ce qui concerne le premier point, qui évoque les fonctions critiques des systèmes d'armes, nous avons relevé qu'il y avait différents points de vue quant au sens de cette expression. Certains parlent de fonctions critiques pour définir un sous-ensemble de fonctions, tandis que d'autres utilisent cette expression comme une expression générale pour toutes les fonctions pertinentes dans le cadre des discussions sur les salaires. D'autres, enfin, l'utilisent comme raccourci pour parler des fonctions qui seraient mentionnées tout au long d'un instrument. Puisque cette expression est vague et peut faire l'objet d'interprétations variées, nous préférerions ne pas l'inclure du tout. En ce qui concerne la question de savoir comment l'autonomie peut être décrite ou expliquée. Comme d'autres délégations, l'Australie ne considère pas qu'il faut lancer de nouvelles discussions sur ce sujet, identifier les caractéristiques qui rendraient un système d'armes proscrit. Nous devons plutôt essayer de bien comprendre l'ensemble des armes dont nous parlons. Les définitions proposées hier après-midi nous permettent d'avancer sur cette voie. Faut-il davantage d'explications ou de discussions sur le sens de l'autonomie? Nous en doutons, nous pensons que c'est couvert dans la définition des salas dont nous avons parlé hier, avec l'expression sans plus d'intervention de l'opérateur ou de l'opérateur humain. En ce qui concerne le premier point, nous ne caractériserions pas l'autonomie comme une fonction spécifique d'un système d'armes. L'autonomie est plutôt une capacité qui peut être incorporée dans différentes fonctions des systèmes d'armes. En ce qui concerne le troisième point, nous sommes préoccupés par la notion de degré d'autonomie comme élément de mesure pour définir les systèmes autonomes. Comme de nombreuses délégations l'ont dit, l'autonomie est un spectre et donc ce n'est pas un concept statique. En ce qui concerne la quatrième puce, nous ne considérons pas qu'il est utile d'inclure ici la notion de contrôle humain. Il serait plus fructueux de débattre de l'implication humaine et des interactions être humain-machine dans le contexte de l'application du DIH pour les SALA et dans les mesures d'atténuation des risques. En ce qui concerne le point 5, nous sommes préoccupés par le fait que ces termes autosuffisants ou autonomes sont vagues et pourraient faire l'objet d'interprétations divergentes. Il faudra donc les préciser davantage. En ce qui concerne le dernier point, nous préférerions suivre une approche neutre d'un point de vue technologique pour décrire l'autonomie et les systèmes autonomes, et ce pour les raisons que nous avons déjà présentées. Je vous remercie, Monsieur le Président.